100% agonoise.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. On vous propose un sommaire riche, c'est le cas de le dire aujourd'hui, et très varié pour ce numéro du 19 octobre 2023. Nous recevrons dans l'ordre Yasmina Cordonnier, la responsable de la librairie Saint-Augustin. Elle nous présentera deux nouveaux ouvrages à découvrir à l'enseigne de Miroir de Page. Nous aurons ensuite Sophie Dupont de l'atelier Arte Magica qui ouvrira ses portes au public ce samedi le 21 octobre. C'est à la Maison des Arts de Saint-Maurice que ça se passera. On aura Tania Giannon, Mathieu Ravi, les membres du SDIS des fortifications. C'est les pompiers. Il prendra part ce SDIS comme chaque année à la journée officiel de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. C'est le 2 novembre prochain en Recherche du Monde. Et puis finalement, on s'entretiendra avec Valérie Bressou-Guérin, la directrice de la médiathèque Valais de Saint-Maurice, qui nous parlera de l'exposition Silver Power, une expo à voir jusqu'au 11 novembre à la médiathèque. Elle sera accompagnée de Sophie de Goumois, qui a pris part à la table ronde sur cette thématique des cheveux gris, organisée en marge de cette expo le 11 octobre dernier. Nous sommes le jeudredi, le 19 octobre 2023. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio. Ça faisait presque, j'ai envie de dire, une éternité. Quel plaisir de te retrouver, Yasmina. Salut.
Salut Fabien. Oui, effectivement, moi aussi, je suis très contente de te retrouver.
Plaisir. Aujourd'hui, séquence littéraire, on va parler de deux ouvrages. Le premier, c'est « Veiller sur elle », un livre de Jean-Baptiste Andréa aux éditions L'Iconoclaste, et « La danse des damnés ». Alors ça, c'est un livre de Kieran Millwood Hargrave. Il a été traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Premier livre, « Veiller sur elle ». On part en 1986, on va retrouver deux frères, des religieux, je précise, hein, des frères religieux. Ils sont réunis autour d'une couche et veillent sur un homme. Ils l'accompagnent en fin de vie, mais cet homme n'est pas un des leurs.
En effet, il n'a jamais prononcé de vœux. Il est là depuis 40 ans car il a une mission, veiller sur elle. Elle, c'est sa dernière sculpture, une Pietà, la représentation de la Mater Dolorosa, sa Pietà. Soustraite aux yeux des hommes par le Vatican, car sa vue provoque d'étranges phénomènes inexpliqués. Quel mystère entoure cette œuvre ? Pourquoi ce célèbre sculpteur a décidé de se retirer du monde pour terminer sa vie auprès d'elle ?
Alors ce personnage qui est en fin de vie, il a un nom, un surnom, il s'appelle Mimo, et puis il se remémore sa vie, les lectrices, les lecteurs pourront découvrir cette vie.
Oui. Mimo naît en 1904. Son père, sculpteur, meurt durant la Première Guerre mondiale. Sa mère réalise très vite qu'elle ne pourra ni subvenir à ses besoins, ni le guider dans sa vocation d'artiste. Elle le confie donc à Alberto, Zio Alberto. Mais celui-ci se révèle être un sculpteur sans envergure, noyant sa médiocrité dans l'alcool. Mimo se retrouve donc livré à lui-même et se construit cahin cahin avec l'aide de ses amis. Et c'est justement lors d'une sortie nocturne avec ces derniers, dans le cimetière de Pietra d'Alba, que sa trajectoire percute celle de Viola Orsini. Ils vont tout de suite se reconnaître, frères et sœurs d'âme.
Malgré le fait qu'ils sont plutôt différents.
Différents et en même temps tellement semblables. Elle, la fille de la famille noble et influente qui règne sur la région, qui a des projets, des rêves plein la tête et envisage l'inenvisageable, tout en restant consciente qu'en tant que femme, qui plus est femme d'une grande famille qui doit tenir son rang, elle se verra très certainement refuser la place qu'elle souhaite occuper. Lui, Mimo, qui garde au fond de lui la blessure profonde de la mort de son père et de l'abandon de sa mère. Sa mère qui lui a donné comme prénom Michelangelo, en l'honneur du grand artiste, et peut-être aussi un peu pour forcer le destin. Mais ironie du sort, il se trouve atteint d'achondroplasie, une forme de nanisme.
Alors du coup, Mimo, hein, le diminutif de Michelangelo lui convient bien. Vous nous avez préparé une citation pour résumer justement cette relation.
Toi et moi, notre amitié. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. Nous sommes deux aimants. plus nous nous rapprochons, plus nous nous repoussons. Nous ne sommes pas des aimants, nous sommes une symphonie. Et même la musique a besoin de silence.
On revient sur ce personnage, Mimo. Il a soif de revanche.
Il a soif de revanche et cette dernière lui sera offerte grâce à son talent, car il a de l'or au bout des doigts. Ses œuvres audacieuses saisissent le mouvement. Son génie insuffle la vie au marbre. Grâce au frère Orsini, il est introduit dans les plus hautes sphères de l'Église et du pouvoir fasciste qui se met en place. Viola, elle, regarde ça de loin et sait que tout se paye. Jean-Baptiste Andrea nous offre une fresque romanesque d'une force incroyable. Il y a tout d'abord le décor, l'Italie à travers son histoire, ses villes, Rome, Florence, ses artistes, sa culture, sa campagne avec ses couleurs, ses odeurs d'orangerie. Les personnages sont véritablement incarnés, terriblement touchants dans leur volonté de prendre leur destin en main, dans leur besoin d'accomplissement et de liberté.
Et pour terminer cette première partie de chronique, on va laisser le dernier mot à Mimo.
Sculpter, c'est très simple. C'est juste enlever les couches d'histoire, d'anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous, toi et moi, et cette ville, et le pays entier. L'histoire qu'on ne peut plus réduire sans l'endommager. Et c'est là qu'il faut arrêter de frapper.
C'était un extrait de « Veillez sur elle » de Jean-Baptiste Andrea, livre paru aux éditions L'Iconoclaste. Le second ouvrage du jour, Yasmina, « La danse des damnés ». On quitte l'Italie et on va sur Strasbourg.
Strasbourg, ville jusque-là prospère, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors nous sommes en 1518 et la canicule sévit. La terre ne produit plus et les réserves de nourriture s'épuisent. Les habitants des villages alentours, poussés par la faim, viennent grossir les rangs des miséreux, d'autant plus qu'au loin, la guerre avec les Turcs-Ottomans gronde et se rapproche.
Voilà pour le contexte. On va présenter un premier personnage, Lisbeth. Lisbeth, elle est entourée de son mari et de sa belle-mère et elle entame ses derniers mois de grossesse.
Elle entame ses derniers mois de grossesse dans un contexte déjà lourd. Mais en plus, Lisbeth doit faire face à d'autres angoisses. Aucune de ses grossesses n'a été menée à terme. Elles se sont toutes soldées par des fausses couches. Outre le désir profond qu'elle ressent d'avoir un enfant, elle sait très bien qu'une femme qui ne peut pas donner une descendance à son mari est une femme maudite, bonne à rien. Elle le voit d'ailleurs dans les yeux de son mari, qui n'a plus aucun geste tendre envers elle. Ils se sont tellement éloignés qu'ils vivent comme des étrangers. Elle se retrouve donc seule avec ses peurs et ses deuils.
Et vient un second personnage, Agnette, ou Agnette, je ne sais pas comment on dit. Alors, c'est la sœur du mari de Lisbeth, voilà. Mmh. Et puis elle revient, après 7 ans de pénitence, dans une abbaye nichée dans les montagnes.
D'Agnette, il n'en a jamais été question dans cette famille. Le sujet est tabou. Mais Lisbeth se questionne. Quelle faute faut-il avoir commise pour subir un tel châtiment ? Heureusement, il y a les abeilles. Lisbeth s'occupe des ruches, c'est son moment à elle, car elle est la seule à pouvoir s'en approcher. Si son travail n'est pas reconnu dans sa famille, il rapporte cependant une rentrée d'argent non négligeable. De la cire, Lisbeth obtient des cierges qui sont vendus dans les églises.
L'église justement, l'institution s'en mêle. L'église dit que les abeilles butinent sur des champs qui lui appartiennent, donc il faut payer.
Il faut payer et le porteur de mauvaises nouvelles n'est autre que le mari de sa meilleure amie Ida, sa seule confidente. Plater est un homme tyrannique appartenant au conseil des 21. Ce conseil fait régner l'ordre et la discipline. S'opposer aux 21, c'est s'opposer à Dieu. Lisbeth se retrouve au centre d'une intrigue. Pourquoi Ida est mal à l'aise lorsqu'elle évoque Agnette ? D'où provient la haine que Plater voue à son mari et à sa belle-sœur ?
Strasbourg, en 1518, c'est aussi l'année où un étrange phénomène s'est déroulé, un phénomène connu sous le nom de l'épidémie dansante. Alors c'est un épisode qui va jouer un rôle déterminant dans le destin de ces trois héroïnes, Lisbeth, Agnette, puisqu'on le dit comme ça, et Ida.
Oui, en fait c'est un fait historique et avéré qui est fort bien documenté pour la période, notamment grâce à Paracelse, qui est justement médecin et philosophe suisse. et qui était présent à cette époque. Une femme, Frau Trophée, que l'on retrouve d'ailleurs dans les carnets de Paracelse et ainsi que dans le roman, se met à danser. Elle fut bientôt rejointe par d'autres femmes et en un mois, elles furent environ 400. Elles dansèrent entre transe et extase, sans s'arrêter, les pieds en sang. Certaines moururent d'épuisement, d'autres d'arrêt cardiaque. Les autorités pensèrent qu'en encourageant le phénomène, il allait s'éteindre. Grave erreur. On leur laissa donc de la place et fit venir des musiciens. Mais cela accentua la contagion et d'autres mesures furent adoptées. En fait, on compte environ 20 épisodes de ce type entre 1200 et 1600 et le dernier a eu lieu à Madagascar en 1863. Les causes de ces épidémies dansantes restent encore mystérieuses aujourd'hui.
On laisse planer le silence pour la réflexion sur le mystère. On arrive enfin de cette critique. Un mot encore peut-être sur l'écriture, sur les thématiques. Donc, vous me l'avez dit, des thématiques fortes, une écriture qui est poétique, qui est évocatrice, malgré une certaine violence à laquelle les différents protagonistes sont confrontés.
Oui, l'autrice d'ailleurs est poétesse et ça se sent vraiment quand on lit ce roman. Et en fait, nous ne pouvons être qu'en empathie avec ces femmes. Nous sommes nous aussi accablés par la chaleur, par l'injustice, mais aussi admiratifs de leur force. Et en fait, nous sentons vibrer autour de nous tous ces corps. Nous entendons leurs pieds qui frappent le sol et, au loin, la poussière qui s'envole.
Voilà, c'est la fin de cette critique. On présentait, cette critique, c'est sympathique, de cette chronique. On présentait deux livres, Veiller sur elle, un livre de Jean-Baptiste Andrea, et puis La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave, qui a été traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Ce sont des ouvrages que vous trouverez bien sûr à la librairie Saint-Augustin. Merci Yasmina.
Merci à vous.
Et on se retrouve dans deux semaines.
Avec grand plaisir.
Deux nouvelles découvertes dans le cadre de Miroir de Page.
Bonsoir, nous voici de retour. Après ces très beaux livres présentés par Yasmina Cordonnier, des belles phrases, on va en retenir une nouvelle qui caractérise notre invitée, à savoir au-delà du crayon, un être humain. Sophie Dupont, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Sophie, vous proposez ce samedi à Saint-Maurice une porte ouverte dans votre atelier Arte Magica à la Maison des Arts. Un atelier de dessin que vous avez ouvert il y a déjà 12 ans, c'est juste ?
Tout à fait.
Comment vous en êtes arrivée à Saint-Maurice à proposer des cours de dessin ?
Alors, c'est assez simple. Je suivais des cours de dessin à l'atelier Art et Création à Vevey. Qui maintenant est à Corzo, et l'enseignante Griselda Serafini a proposé de me former ainsi que d'autres personnes à sa méthode, donc la méthode à récréation, qu'elle a créée il y a environ maintenant 40 ans. Et puis à l'issue de cette formation, j'ai décidé d'ouvrir un atelier à Saint-Maurice. Pourquoi Saint-Maurice ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai une partie de ma famille à Saint-Maurice, donc voilà, c'est plus rassurant. Je connais bien cette ville, je l'aime beaucoup. J'ai fait mon apprentissage. Et puis, il y a aussi l'aspect logistique, à savoir que c'est un carrefour. Donc, c'est facilement accessible. Donc, c'est gagnant sur tous les plans.
D'accord. Et puis, cette méthode de peinture, donc elle est ouverte. Vous proposez un atelier ouvert aux 9-99 ans. Ça fait un public quand même très large. Comment vous proposez ce service-là ? Comment on apprend à peindre à des 9 à 99 ans ?
Alors, disons que la base, c'est plutôt le dessin, parce qu'on commence par ça et la peinture vient ensuite. Le cours, il est scindé en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un cours pour les enfants de 9 à 12 ans et ensuite, on a un cours pour les ados adultes dès 13 ans. Donc, comment on peut inclure dans une classe des âges si disparates ? C'est simple. Tous les élèves sont suivis individuellement. Ça veut dire que débutants et avancés suivent le même cours. On peut commencer quand on le souhaite dans l'année. Donc, c'est assez rare qu'on ait deux personnes qui sont à la même étape. Et donc, chacun est suivi individuellement. Ce n'est pas un cours ex cathedra où je montre au tableau des exercices. Mais au début du cours, je passe vers chacun pour leur expliquer le travail du jour Et ensuite, les élèves commencent à dessiner et je passe vers chacun tout au long du cours pour coacher, répondre aux questions et veiller à ce que tout se passe bien. Et vraiment, il n'y a pas d'âge pour commencer à dessiner. Pour vous dire l'élève la plus âgée, c'est plus élégant, qui est venue à l'atelier, avait 84 ans. Voilà, donc pour dire qu'on peut commencer à dessiner à l'âge qu'on le souhaite, le seul prérequis, c'est d'avoir envie d'apprendre. En partant de là, il n'y a aucune raison, en fait, pour qu'on n'y arrive pas. Après, on va peut-être aller plus vite, plus lentement que les autres, mais ce n'est pas grave, on va à son rythme. Et c'est aussi un des points forts de la méthode, c'est qu'on va à son rythme. On n'est pas obligé de suivre les autres ou d'attendre sur les autres. Et je trouve que c'est important, surtout à l'heure actuelle où on doit faire tout vite, vite, vite. Et on n'a jamais le temps de rien. Là, on peut prendre le temps dont on a besoin pour apprendre correctement.
Est-ce que les cours que vous proposez, Sophie Dupont, c'est aussi un moyen peut-être de casser l'idée que le dessin, c'est soit on l'a à la naissance au bout des doigts, soit pas ?
Complètement. Il y a une espèce de croyance populaire qui veut que soit on est doué du dessin par la grâce du Saint-Esprit à la naissance, soit on l'est pas. Et c'est faux. Le dessin, c'est une technique. Ça s'apprend comme la musique, ça s'apprend comme la danse. Ça s'apprend. Maintenant, la différence, c'est que la créativité, elle ne s'exprime pas chez tout le monde de la même manière. Et pour certaines personnes, le dessin, ça ne leur parle pas. Après, à l'école, on se dit, oui, mais bon, voilà, il y a des enfants, ils dessinent déjà très bien à l'école. Oui, mais les enfants qui dessinent déjà très bien, ils ont l'intérêt du dessin. Et donc, ils dessinent déjà beaucoup à côté. Donc forcément, l'enfant qui dessine plus tout seul, il va avoir un meilleur niveau que l'enfant qui ne dessine pas. Voilà. Mais on croit à tort que c'est un don de naissance et c'est faux. Et j'ai eu plein d'élèves qui étaient convaincus d'être nullos en dessin parce qu'un prof leur avait dit que voilà. Et en définitive, pas du tout. Non seulement ils ont bien réussi à apprendre, mais en plus ils ont réussi à faire des beaux dessins et ils étaient les premiers étonnés. Et c'est vrai qu'une remarque que les élèves font souvent, on va dire celle que j'entends le plus, c'est « j'aurais jamais pensé que je puisse arriver à faire ça ».
Donc, on est capable d'apprendre à tout moment. Le seul critère, finalement, c'est l'envie voilà. De dessiner, l'envie de peindre.
Voilà. Et aussi la dévotion, dans le sens où il faut être prêt à travailler à côté, parce que la théorie, les cours, encore qu'il n'y a pas vraiment de théorie pendant les cours, c'est essentiellement de la pratique. Si à côté, on ne pratique pas, eh bien, on va avancer très lentement. Parce qu'en définitive, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça veut dire qu'il faut être prêt à aussi consacrer du temps en dehors des cours, si on le peut, pour pratiquer ce dessin.
Donc un art, mais aussi une discipline, en quelque sorte.
Complètement. Une discipline, comme dans le sport, comme dans la musique. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On a l'impression vraiment que le dessin est à part, mais non. C'est une discipline comme une autre, avec la discipline qui va avec, comme les autres. Et voilà.
Et vous, Sophie Dupont, vous en êtes arrivée comment à cette dévotion pour la peinture et le dessin ?
Alors, complètement en zigzag. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé le dessin. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. J'ai vraiment été passionnée par ça. C'est surtout à l'adolescence que vraiment j'ai compris que c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, je me rappelle, je dessinais tout le temps. Et voilà, je faisais ce que je devais pour l'école, mais tout mon temps était dédié au dessin. Et voilà, après, j'ai pas forcément pu faire une école d'art parce qu'à l'époque où j'ai dû choisir mon métier, il n'y avait pas 50 000 écoles, hein, il y avait les Beaux-Arts à Serres, point. Et les débouchés à l'époque en Suisse, c'était pas, il n'y avait pas grand-chose. Le seul moyen d'en faire quelque chose, c'était de partir à l'étranger, ou alors de finir prof, mais il y avait très peu de débouchés. Maintenant, avec la technologie actuelle, on peut travailler avec le monde entier, ce qui change beaucoup en fait les rapports. Et donc, finalement, voilà, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce et puis j'ai commencé ma vie active. Et quand j'ai eu assez d'argent, j'ai pu m'offrir des cours de dessin où j'ai pu vraiment progresser, parce qu'en autodidacte, on peut faire beaucoup de choses, mais avec des cours, on progresse énormément parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas trouver tout seul. Et je précise quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas les tutos sur YouTube. C'était à la dure, on devait acheter des bouquins ou tester par soi-même. Donc, ce n'est pas la même chose que maintenant. Maintenant, on peut quand même s'en tirer mieux grâce à Internet.
Mais malgré tout cet aspect numérique, il y a quand même toujours cette présence, le lien avec la matière, avec le papier, avec la mine. Et c'est ce que vous proposez samedi aux personnes qui s'intéresseraient, qui voudraient franchir cette barrière, de venir vous rencontrer pour tester un peu tout ça. Je crois qu'il y a un fil rouge durant la journée, c'est celui de l'Irlande, c'est bien juste ?
Tout à fait.
Pour quelle raison ?
Ben, l'Irlande, c'est mon pays de cœur. C'est ma deuxième maison. Donc, généralement, quand je crée quelque chose ou que j'organise quelque chose, j'arrive à caser ça dans un coin. C'est vrai que j'espère que chaque fois que je vais là-bas, je ramène avec moi un peu de cette magie de l'Irlande que j'insuffle un petit peu dans tout ce que je fais. C'est quelque chose qui me parle et du coup, ça fait partie de moi.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourra faire ce samedi dans votre atelier ?
Alors, concrètement, vous pourrez faire plusieurs choses. Déjà, découvrir les locaux, fraîchement redécorés. Ensuite, il y aura de la musique irlandaise. Et des musiciens, quelques musiciens qui viennent. Donc, ce sera un concert acoustique, comme dans les pubs. Et puis, nous aurons aussi des contes et légendes d'Irlande. Voilà. Et pendant tout ce temps... Les visiteurs pourront admirer des travaux d'élèves. Et durant toute la journée, je réaliserai une peinture dans ce qu'on appelle le speed painting. C'est réaliser une œuvre dans un temps donné. Le thème est proposé par les internautes sur la page Facebook. Et donc, je vais tirer au sort ce thème le jour même. Et puis, je vais devoir faire quelque chose avec ça. Voilà. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui ont proposé des choses assez, qui sont bien lâchées, c'est assez, cossu, mais c'est aussi l'occasion d'inverser les rôles parce que le reste du temps, c'est moi qui regarde travailler les élèves. Et là, l'idée, c'est que pour une fois, c'est moi, en fait, qui suis un peu sur le grill. Et puis, ça change. C'est une activité qui change. Et alors, bien sûr, j'aurai le temps de discuter avec les personnes qui souhaitent me rencontrer, il n'y a pas de souci. C'est assez informel hein, comme performance. Et donc, la journée, il va se dérouler sur ce fil.
Et de manière assez conviviale, je crois, puisqu'on prévoit aussi des contes, des thés, des petits gâteaux, c'est tout ça ?
Voilà, j'ai le chaudron d'Iwen qui vient avec ses tisanes artisanales, qui sont fabriquées ici dans la région, sur Martigny. Donc, c'est ultra local. Et puis, voilà, un ou deux petits cakes maison gracieusement cuisinés par ma tante qui a été gentille de m'aider dans cette opération. Voilà.
Alors, on remercie d'avance la tante. On rappelle l'heure, donc 13h30, 18h, c'est bien juste, à l'atelier qui se trouve à la Maison des Arts de Saint-Maurice.
Tout à fait.
On peut dire aussi qu'il y a déjà 3 cours qui sont ouverts, 2 pour les adultes, 1 pour les enfants.
Oui.
Qu'il reste encore des places ?
C'est tendu, mais j'ai des listes d'attente. Les personnes qui veulent s'inscrire peuvent se mettre sur liste d'attente parce que, en fait, les élèves ne s'inscrivent pas forcément pour l'année. Donc, il y a des départs, des arrivées en cours d'année. Ça dépend, le programme.
C'est encore possible.
C'est encore possible. Simplement, il ne reste plus beaucoup de place.
Ok, et si on veut en savoir plus sur vous, donc on se rend samedi à la Maison des Arts dans votre atelier. On vous retrouve aussi sur internet, arte-magica.ch. Vous êtes aussi présente sur Facebook.
Oui.
Et sur les autres réseaux sociaux, j'imagine.
Instagram,
Arte Magica aussi.
Oui.
Voilà. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci de nous avoir expliqué tout ce travail en lien avec le dessin et la peinture. Et à bientôt, Sophie Dupont.
Merci de m'avoir reçue et puis à bientôt aussi.
Chaque année, début novembre, les pompiers de toute la Romandie vivent leur grande journée de recrutement. Alors ça se passe en Valais, ça se passe au Coton de Vaud, ça se passera aussi à Saint-Maurice, on va parler de ce sujet-là. On a deux personnes qui nous ont rejoint dans le studio pour parler justement de cette journée de recrutement, de la vie de pompier, des implications de cette belle fonction de milice pour le SDIS des fortifications qui recrute, qui cherche du monde, qui doit garder son effectif, c'est une réalité. Tania Janon, salut.
Salut.
Et puis Mathieu Ravi, salut.
Hello.
Une toute jeune pompier et puis un vieux briscard de la vieille qui pourra un petit peu nous expliquer son vécu. Tania, ça fait une année maintenant que tu es devenue, que tu t'es engagée chez les pompiers.
Ça va faire gentiment une année, oui.
Donc il y a eu la journée, tu as participé à cette journée de recrutement l'année passée.
Ben exactement, je suis allée à la soirée de recrutement de l'année passée et puis ça s'est super bien passé, c'était hyper intéressant. Donc à la fin de la soirée, ben, j'ai décidé de m'engager. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé au début ? C'est la curiosité ou c'est quand même l'envie de faire quelque chose ?
Ben, c'était quand même l'envie de m'engager pour quelque chose que je trouvais utile et important.
Ça fait une année, il y a eu une formation. Comment ça se passe ? On fait quoi pour la formation des pompiers ? On nous donne un tuyau, on apprend à éteindre un feu avec un tuyau. Comment ça se passe ?
La première année, c'est une année vraiment que de formation. Du coup, au début, on a un week-end de formation. Là, on est allé à Châteaudet et puis ils nous expliquent vraiment la base de tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir ensuite aller faire les exercices avec notre caserne. Donc, on a sur l'année quelques exercices en caserne et puis on a aussi à côté des exercices de formation où là, c'est organisé vraiment pour les recrues, pour qu'on puisse revoir les bases et puis aller un petit peu plus loin.
Mathieu, je pense que tu as déjà vu quelques années de recrues, de nouvelles recrues.
Oui.
Comment est-ce qu'il y a un programme pour l'intégration des nouveaux ? Justement, ils font leur formation d'un côté, puis gentiment, on les intègre. Et puis, selon leur capacité, on décide de leur affectation. Ça se passe comment ?
Alors, ce n'est pas à nous qu'on décide. Le cursus est assez simple. C'est vrai qu'il y a cette année de formation où là, ils sont en dehors des effectifs d'appel, si on veut bien. Et puis, au bout de cette année-là, ils incorporent le DPS chez nous, le détachement de premier secours. Et du fil en aiguille, leur affiliation se fait naturellement par rapport à leur envie. Il y a les porteurs d'appareils respiratoires qui, eux, sont en direct contact avec le feu. Donc, on rentre dans le feu avec les bouteilles,
voilà,
il y a les chauffeurs, les machinistes.
Avec les bouteilles, voilà. Les chauffeurs. Toi, tu es chauffeur ?
Oui.
Formateur chauffeur ?
Oui.
Donc, tous ceux qui veulent avoir qui veulent conduire le camion pompier, il faut passer chez Mathieu.
C'est ça.
Tania, y a eu cette première année. Donc, tu es maintenant dans le détachement de premier secours ?
Ça va arriver gentiment.
Ça va arriver gentiment. Est-ce que tu as, quelque chose qui te donne envie de faire, conduire ou porter les appareils respiratoires ou c'est vraiment quelque chose que tu verras plus tard ?
Pour l'instant, je verrai plus tard parce que c'était déjà...
Apprendre à maîtriser ce monde.
Voilà, c'était déjà l'inconnu, la nouveauté, donc une chose après l'autre.
Alors, faut pas faire du... on devrait pas souligner, Tania, tu es une femme et tu es au pompier, c'est extraordinaire parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais quand même, je pose la question. Alors, on n'a pas de... Ah oui, il y a la caméra, mais... t'as des ongles, féminité, enfin, je veux dire, c'est... ce qu'on peut dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, quoi.
Ouais, alors effectivement, j'ai pas trop le profil... Mais oui, c'est ouvert à tout le monde. Et puis moi, il n'y avait vraiment rien qui me prédestinait à faire ça. J'étais jamais montée sur une échelle, je crois, avant d'intégrer les pompiers.
Et pas ce rêve, comme tous les petits garçons.
Non, pas du tout. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis j'ai été hyper bien accueillie, hyper bien intégrée, très bien formée. C'est vraiment une caserne très sympa, donc... Pas hésiter à venir.
Faut venir, voilà, ils sont... on recrute vraiment à Saint-Maurice. Mathieu, il faut quand même avoir certaines aptitudes physiques ou pour pouvoir faire cet engagement de pompier.
Alors, je vais te lire les critères de recrutement. Avoir plus de 18 ans, en bonne forme physique, être motivé et disponible, j'insiste sur le disponible, ouais. Réussir les tests d'entrée. Les tests d'entrée, c'est avoir un peu de bonne sympathie, un bon sens terrien et puis être capable de différencier le feu de l'essence.
Voilà, le rouge et le vert. justement, il y a cette question du temps. Tu en parles, Mathieu. C'est quelque chose aussi qui parfois peut faire un peu peur aux gens, l'engagement qui prend beaucoup de temps. Alors, Tania, cette première année, il y a des formations, il y a des blocs de formation, l'intégration qui va venir gentiment. Est-ce que ça prend beaucoup de temps?
Je dirais pas que ça prend beaucoup de temps. Bah, après, c'est un engagement, mais je pense que c'est comme quelqu'un qui déciderait de faire un sport d'équipe ou quelqu'un qui déciderait de faire de la musique dans une fanfare. Bah, c'est un engagement, donc il faut être là quand on a besoin de nous, mais c'est pas...
Pas quelque chose qui va engager la personne tous les week-ends. Il y a des exercices, il y a des formations, mais ça laisse quand même un peu vivre. Mathieu, est-ce que tu vis à côté de tes pompiers?
Bien sûr, j'ai bien des choses à faire à côté. Ouais. C'est vrai que je peux peut-être répondre un peu plus cartésien là-dessus. En moyenne, un sapeur qui est incorporé au DPS, il aura entre 4 et 5 week-ends de piquet à faire. Donc, où là, on lui demande de rester sur... Le territoire de Lavey et de Saint-Maurice.
Ouais.
D'accord. Ça, c'est 5 week-ends de l'année où c'est défini au début de l'année. Donc, les gens sont assez malins pour s'organiser sur toute une année complète pour se faire remplacer. Et puis après, ben, y a bien des choses qui demandent, comme elle dit Tania, de l'engagement. C'est aussi 5 exercices par année. Et plus on va monter les échelons de l'envie, plus on aura des petites choses à faire. Comme je dis, les appareils respiratoires, c'est encore des exercices en plus. Les chauffeurs, d'autres exercices en plus. Après, il y a les exercices de cadre. Puis après, il y a les choses qu'on fait à côté pour le plaisir. Nous, on fait des concours, par exemple.
De motopompe.
Entre autres.
Hein, on t'avait reçu, je pense qu'il y a un an, peut-être, quelque chose comme ça. Avant le concours motopompe. Non, peut-être pas, parce qu'on n'existait pas encore. Je ne sais plus. Enfin, bref. Ouais, alors, c'est beaucoup, finalement, du selon les disponibilités. Il y a le détachement premier secours, puis il y a un détachement d'appui aussi.
C'est ça.
Et là, peut-être, ça peut aussi, on peut accueillir aussi des gens qui, peut-être, ont un peu moins le temps de faire beaucoup d'exercices, mais qui veulent se mettre à disposition. Je dis ça parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent « Moi, j'aimerais bien faire, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. » Et puis, j'ai envie de dire aux gens « Mais même si vous n'avez pas assez de temps, il faut essayer, quoi. »
Alors moi, je pense que la phrase, elle est juste. Il faut essayer.
Ouais.
Il y a beaucoup de temps à donner, c'est clair. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se faire naturellement. On va le faire, comme elle disait Tania aussi, comme une fanfare. Celui qui aura envie de s'investir à faire l'entraînement pour les jeunes, de la musique pour d'autres choses, il va le faire. Mais c'est de la milice, tu l'as dit avant aussi. Et donc, les gens viennent quand ils sont disponibles. Et à aucun moment, on met le couteau sous la gorge des gens pour leur dire que maintenant, tu as signé, tu viens.
C'est vrai, Tania?
C'est vrai.
Pas de couteau sous la gorge. Il y a quelque chose qui te plaît plus que d'autres dans ce que tu as pu apprendre pour l'instant?
Ben, c'est très différent de ce que j'avais connu jusque-là. Donc, c'est hyper enrichissant de toucher à un nouveau domaine. Chaque fois que je vais à un exercice, j'apprends plein de nouveaux trucs. Et puis ça, je trouve vraiment hyper chouette.
Avec une ambiance qu'on doit souligner. Il y a une 30-40 personnes à peu près hein, sur le SDIS des fortifications. Mais une ambiance qui est très, très soudée.
Oui.
Ouais.
Pour ma part, je dirais que oui. Parce que justement, ça fait un certain temps que je suis là. Moi, j'ai comme parcours de pompier. J'ai commencé à Grillon. Je suis allé à B. Puis quand j'ai déménagé à Lavey, je me suis engagé aux fortifications. Donc oui, c'est quelque chose que moi j'apprécie, mais c'est aussi des choses que les gens peuvent apprécier ou pas. C'est les gens qui sont à l'intérieur.
Ouais.
Donc c'est ça qui fait que les gens vont rester ou pas.
Bon, il faut dire aussi, alors particularité, hein, les pompiers de Saint-Maurice, pour celles et ceux qui ne le savent pas, sont sous le régime vaudois. C'est pour ça qu'il a fallu aller se former à Châteaudet.
Oui, tout à fait.
Mais ça va avec les vaudois?
Oui, ça va.
On est en minorité, si jamais.
Il y a beaucoup d'Agonois, et puis on peut se targuer d'avoir un des seuls commandants de pompiers en Valais qui est major. Donc voilà, petite salutation à Michael s'il nous écoute. Cette soirée même du 2, finalement, à quoi on doit s'attendre? Si je suis intéressé, j'ai envie de venir. Alors il y aura dans toute la ville des affiches, il y a un site internet, on le mettra sur Agon Radio. À quoi on doit s'attendre ce 2 novembre? Alors, je ne sais pas si c'est Mathieu ou Tania. Tania, tu l'as vu l'année passée, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Moi, je suis arrivée à la caserne l'année passée, donc je me suis vraiment pointée comme une fleur. Ouais. Et puis, on m'a tout de suite pris en charge hyper sympathiquement. Et puis, on a eu une petite explication un petit peu théorique, ben, justement, sur ce qui allait nous attendre pendant l'année de formation. Et puis après... On est allé observer l'exercice qu'ils étaient en train de faire. À la fin de l'exercice, on a pu un peu discuter avec tout le monde, voir un peu ce qui nous attendait, comment ça se passait. Et puis à la fin de l'exercice, si on est intéressé, on peut s'inscrire, quoi.
Alors Mathieu, on dit recrutement, mais finalement, c'est plus une démonstration, on vous montre ce qu'on fait. Et si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Parce que c'est vrai que moi, en bon garçon, je pense recrutement, je me souviens faire des tours de terrain, faire des pompes pour l'armée, là, tout ça, c'est différent.
Bien joué, mon major. Alors, c'est clair que ça a une appellation qui est peut-être un petit peu militaire. Il y a quelques notions qui sont du paramilitaire dans le système de grade, de hiérarchie, mais ce n'est pas du tout orienté militaire. Ce recrutement, c'est juste une appellation. C'est vrai que le fait de la démonstration, il est vraiment là pour que les gens puissent arriver avec leur rêve d'enfant et se dire, voilà, ou monsieur et madame Chicago Fire, quand ils arrivent, ah, ok, ça se passe pas tout à fait comme ça, en fait. Il y a vraiment, ouais, je vais mettre un point d'orgue sur le fait qu'il faut oser venir, parce que le soir même, la démonstration, elle se fait vraiment, c'est des choses que nous, on fait naturellement à tous les exercices.
Voilà.
Démonstration.
Donc, pour résumer, découvrir des choses intéressantes, rencontrer des personnes intéressantes, s'en sortir avec des bagages qui peuvent être utiles dans la vie, on ne sait jamais, un brevet premier secours à BLS-AED, donc pour le défibrillateur, on fait ça, ça peut toujours être utile. Et puis, si on veut être copain avec Mathieu, on peut faire le permis C1, qui permet de conduire des camping-cars de plus de 7 tonnes et demie au civil, donc c'est aussi bien de pouvoir faire toutes ces choses aux pompiers. Rendez-vous donc le 2 novembre, c'est en fin de journée.
C'est juste. Je dirais que exactement. Nous, on commence l'exercice à 19h.
Voilà,
je pense que venez un petit peu avant.
Et pour les informations, est-ce qu'il y a un site internet que tu me donnes, le petit flyer
118-info. Info. Ou info 118, je ne sais plus.
Ouais, 118-info.ch. Ouais. Il y a toutes les informations. Le rendez-vous, c'est donc le 2 novembre à la caserne Saint-Maurice, à la sortie de la ville. Merci Mathieu.
Plaisir.
Merci Tania.
Merci à toi.
Et puis bonne suite à vous surtout.
Nous voici de retour sur Agon Radio pour ce jeudredi avec une nouvelle page culture. On en aura eu plusieurs ce soir, voire même une page presque sociologique, si j'ose dire. On va voir pourquoi, puisque on va parler ce soir de l'exposition Silver qui se tient jusqu'au 22 novembre à la médiathèque de Saint-Maurice. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce faire Valérie Bressou-Guérin, directrice de la médiathèque, et Sophie de Goumois qui, elle, a participé directement à cette exposition, puisqu'elle s'est fait photographier pour l'occasion. Valérie ou Sophie, je ne sais pas qui voudra commencer, mais comment tout ça est né? Qu'est-ce que c'est Silver, déjà? Un titre anglais qui veut raconter quoi?
Alors, l'histoire de cette exposition, en tout cas sur Saint-Maurice, c'est une rencontre, un appel qui a été fait par Ghislaine Heger, il y a à peu près 2 ans, qui lançait son projet de photographier des personnes qui faisaient une transition particulière, puis c'était une transition capillaire, et elle cherchait des fonds. Et quand elle s'est adressée à la médiathèque Vallée-Saint-Maurice, eh bien, malheureusement, j'ai dû lui dire que nos budgets ne permettaient pas de donner de l'argent pour constituer une exposition, mais que par contre, on était très heureux si on pouvait la recevoir, et à ce moment-là, on pourrait louer son exposition. C'était notre façon à nous de contribuer à cette exposition.
Alors, pour être un peu plus clair, une transition capillaire, c'est une transition des teintures, juste, jusqu'à laisser ses cheveux gris ou blancs émerger dans la chevelure. C'est ce que vous avez choisi de faire aussi, Sophie de Goumois?
Oui, voilà. Alors, moi, de base, ce n'était pas vraiment un choix, parce que j'étais coiffeuse et j'ai eu de fortes allergies aux colorations. Donc, j'ai terminé mon apprentissage et je savais que la coloration chimique, en tout cas, n'était plus pour moi. Et je suis passée donc au henné pendant longtemps. Et maintenant, voilà, j'ai arrêté le henné pour essayer de laisser mes cheveux blancs.
Donc, c'est quand même un choix, tout de même.
Voilà, c'est un choix, mais c'est vrai que je savais qu'en tout cas, les colorations chimiques, c'était pas pour moi et qu'à un moment donné, j'allais quand même devoir m'habituer à mes cheveux naturels. Donc j'ai pensé que si je faisais ça plus tôt, ce serait plus facile.
Qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi, peut-être juste pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent. Donc Sophie, je ne vous ai pas demandé votre âge, est-ce qu'on peut le demander?
Oui, voilà, j'ai 35 ans.
35 ans, alors Sophie a des longs cheveux très foncés noirs et justement des petites mèches plus claires sur le devant. C'est ravissant.
Merci.
Mais comment est-ce que vous avez décidé à ce moment-là, tout d'un coup, de vous passer du henné et de faire fi de cette coloration?
Alors, il faut dire que le henné, c'est assez compliqué à appliquer. C'est très long. Ça a une pose de une heure ou deux. En fait, plus on a des cheveux blancs, plus il faut laisser poser longtemps et plus il faut faire souvent. Donc, ça me prenait énormément de temps. Et comme j'ai deux jeunes enfants, c'est pas, voilà, j'avais pas tout le temps envie de prendre tout ce temps dans mes cheveux. Voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, mince, j'ai quand même une bonne mèche blanche. Qu'est-ce que je fais ? Ça pourrait peut-être être sympa, quand même, de voir ce que ça donne. Et puis, je me suis dit, de toute façon, un jour ou l'autre, je vais devoir y passer. Donc, essayons. Voilà.
Et puis, cette transition, justement, le moment où on se dit, ben voilà, cette fois, on arrête. J'imagine qu'il y a passablement de choses qui doivent se passer dans la tête, qu'on doit se poser passablement de questions. Le regard des autres, j'imagine aussi, est assez important. Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, les premières semaines, quand ça se voit très peu, c'est plus de la curiosité. Voilà. Et puis, petit à petit, quand ça commence à se voir, alors, il y a bien sûr un peu les remarques des gens, positifs ou négatifs. Et puis, il y a des jours où c'est pas facile, où on se dit qu'on aimerait bien cacher, en fait, ces signes de vieillesse. Et puis, il y a quand même des jours où je trouve ça sympa, où je trouve ça presque cool. Et où je me dis, bah, en fait... Je trouve aussi qu'Instagram, je suis beaucoup de femmes sur Instagram voilà, qui ont des cheveux blancs, qui ont des cheveux gris, qui ont différentes corpulences, qui appliquent le body positive. Et en fait, toutes ces femmes m'ont inspirée pour me dire, ben, moi aussi, je peux choisir et je peux être, voilà, m'accepter telle que je suis au naturel.
Et dans le cadre de cette exposition Silver à la médiathèque, donc c'est une quinzaine de Valaisannes qui ont été photographiées par Ghislaine Egger, donc cette photographe, c'est son projet. Valérie Brousseau-Guérin, vous me disiez, il y a eu énormément de postulations en fait.
Oui, Ghislaine Egger, quand elle a démarré son projet, elle a fait un appel, sauf erreur, dans le Nouvelliste. Elle a posé une annonce, en tout cas dans le Nouvelliste, voire ailleurs. Et elle a été... visiblement submergée de candidatures. Elle a été très malheureuse de voir faire un choix parce que toutes les candidates étaient sympathiques, mais elle a posé certains critères et elle voulait une variété de personnes de tous âges, de toute provenance. Et c'est ce qui lui a permis de sélectionner notamment Sophie. Et pas seulement Sophie, puisque à Saint-Maurice, il y a aussi Ariane Curdy. Donc, il y a plusieurs Valaisannes, des Chablaisiennes, mais aussi des personnes du centre. Donc, c'est vraiment de couvrir tout le Valais romand. Elle n'a pas été jusque dans le Haut-Valais, probablement pour des questions de langue, mais aussi parce que c'était des femmes de Romandie qui étaient ciblées par Madame Egger.
Voilà, et dans ces quinzaines de visages qui sont visibles donc, à la médiathèque de Saint-Maurice, ça me fait penser, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de coming out des femmes aux cheveux blancs ?
On pourrait, oui.
Est-ce qu'il y a un besoin de s'affirmer, en fait, de dire, eh ben voilà, j'assume, comme vous le disiez tout à l'heure sur Instagram
Je pense que ça dépend. On a pu beaucoup échanger avec les autres participantes. Donc, il y a vraiment des femmes où ce serait montrer leur force, montrer certaines... C'est un côté... voilà, je ne sais pas si on peut dire revendication. D'autres, c'est pour des soucis de temps, d'argent, de... Voilà, donc tout... on va dire qu'on était toutes très différentes.
Et d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés puisqu'il y a eu une table ronde la semaine dernière. Est-ce que comment ça s'est passé ? L'idée, c'était d'échanger vos histoires personnelles ?
Voilà, c'était d'échanger. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu de très beaux moments de partage, de discussion. Et les trois participantes, on était toutes quand même différentes, avec des vécus et une histoire différente. Donc, c'était très enrichissant.
Quels sont les retours que vous avez à la médiathèque ? Est-ce qu'il y a des commentaires qui sont perceptibles comme ça dans les... Parce que la médiathèque a l'habitude de faire ses expositions assez régulièrement. Là, c'est vrai que la thématique est quand même assez originale et particulière. Est-ce que vous avez vent de ce qui se trame dans la tête des gens quand ils voient ça ?
Alors, on ne voit pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux collaboratrices... Puisqu'à Saint-Maurice, il y a une majorité de collaboratrices. Il y a quand même trois garçons, mais une majorité de filles. Et parmi ces filles, il y a des personnes qui se colorent les cheveux, d'autres pas. Et ça a été des discussions, notamment entre nous, en disant, mais enfin, une exposition comme ça, mais moi, je n'ai pas envie de devenir grise. Mais on a dit, mais tu n'es pas obligée de devenir grise, ce n'est pas une obligation. pas parce qu'on fait une exposition sur les cheveux gris que toute la médiathèque doit se transformer en cheveux gris, mais c'était des discussions très intéressantes et c'est quelque chose de très sensible, je pense peut-être plus pour les femmes que pour les hommes, bien que des hommes se teignent les cheveux aussi aujourd'hui, hein, certaines personnes. Mais c'était très sensible et c'est très touchant parce que chacune a une histoire particulière et qui, le fait qu'elle changera de couleur de cheveux ou non. Donc je pense que ça fait des échos aussi au sein de leur famille, au sein de leur entourage. Et le but de cette exposition, ce n'était pas de militer pour dire aux femmes « abandonnez vos teintures, revenez à quelque chose d'autre ». Absolument pas, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Et c'était simplement de dire ben, « certaines personnes ont dû faire le pas parce qu'elles n'avaient pas le choix ». D'autres ont fait un choix différent. Et puis, les cheveux gris ou colorés sont tous de très beaux cheveux.
Dans tous les cas, il y a cette idée d'aller contre les préjugés quand même. Ils sont encore assez forts. Vous évoquiez les hommes et les femmes. Peut-être Fabien pourra témoigner ou je ne sais, mais un quarantenaire avec ses premières tempes grisonnantes, c'est so sexy, ouais. Alors qu'une femme, ben, elle commence à faire vieille, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait de vous des... Vous êtes en train de faire peut-être un peu un acte militant, non ?
Alors peut-être, oui. En tout cas, je trouve sympa quand même que les hommes et les femmes aient les mêmes chances. Et puis le fait de trouver un homme très beau avec les cheveux gris et une femme avec les cheveux gris, voilà, d'avoir des commentaires négatifs, je ne vais peut-être pas les citer là, mais voilà, on les a tous entendus. Le but, ce serait vraiment qu'on puisse faire tous les choix qu'on veut et qu'on ne soit pas jugé sur une couleur de cheveux, qu'on soit homme ou femme.
Valérie le disait tout à l'heure, il y a eu cette discussion au sein des collaboratrices de la médiathèque. Sophie, vous, est-ce qu'on est venu vous dire, en vous remerciant peut-être, de dire, ben voilà, vous l'avez fait, moi ça m'aide aussi à faire du chemin dans ma tête.
Alors, c'est venu justement cette semaine, voilà, où j'ai une amie qui m'a dit, écoute, bon, voilà, je vais faire le pas, j'arrête mes couleurs, franchement, t'avais raison. Elle a des beaux cheveux longs, bouclés, magnifiques. Et quand elle a été à la médiathèque, elle a vu une autre femme avec les cheveux blancs, bouclés. Et elle s'est dit, non, en fait, c'est magnifique. Pourquoi je m'embête autant avec toutes ces colorations ? Donc, ça fait plaisir de voir d'autres personnes faire le pas.
Donc, une exposition qui fait boule de neige, si on ose dire, et qui est à voir jusqu'au 22 novembre à la médiathèque de Saint-Maurice. 15 portraits photographiques de femmes. Cette exposition... va voyager un peu plus haut dans le canton puisqu'elle sera à Sierre dès le 14 novembre, c'est juste,
voilà,
Valérie ?
Effectivement, c'est juste la date, c'est effectivement jusqu'au 11 novembre.
Jusqu'au 11 novembre, pardon.
On voulait bien la garder jusqu'au 22, mais Sierre la souhaitait aussi, donc les Agonois qui l'auraient loupée éventuellement, enfin elle est là jusqu'au 11, donc c'est déjà pas mal, mais s'ils l'ont loupée, elles pourront la voir à Sierre, et sauf erreur, elle va jusqu'en février 2024.
D'accord. Et pour la voir à Saint-Maurice, donc c'est selon les horaires d'ouverture de la médiathèque, qui ces prochains jours avec les vacances sont différents ?
Alors, pendant la période des vacances, c'est ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi. Mmh. Et puis à partir du 30 octobre, ce sera à nouveau les horaires normaux, donc du lundi au samedi, à partir de 12h30 jusqu'à 18h et le samedi jusqu'à 17h.
Merci beaucoup Valérie Bressou-Guérin. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et un grand merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités du jour. Nous avions Yasmina Cordonnier, Sophie Dupont, Tania Giannon, Valérie Bressou-Guérin, Sophie de Goumois et Mathieu Ravi, un seul garçon. Paf, un jeune mâle un peu esselé, il faut le dire, dans cette distribution éminemment féminine. Pas de jeudi la semaine prochaine, c'est relâche dans tous les sens du terme. Rendez-vous donc le 2 novembre pour le lancement d'un mois qui vous réserve quelques surprises. Nous vous en dirons plus le 2. D'ici là, restez à notre écoute sur Internet, sur le DAB+, ainsi que sur les box Net+ et Swisscom Blue. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site internet agoneradio.ch. Je crois que là, il n'y a plus d'excuses, on est partout. Bonne suite de jeudi soir et à bientôt sur Agone Radio.